Accès libre.
Bonjour tout le monde, ici Benoît Rassette, c'est l'heure d'Accès libre. Et aujourd'hui, on se met la tête dans les médias, rien de moins. En fin d'émission, on rencontre le porte-parole Christophe Davidson pour le Festival de films. Au contraire, un festival qui rime, ou plutôt qui fait rimer film et santé mentale. On s'intéresse aussi au nouveau service de relais vidéo. Notre chroniqueur Miguel Ross est engagé dans Visu Libre, quelque chose comme un projet pour donner une seconde vie à vos logiciels libres et au matériel informatique. On se demande aussi ce qui advient des personnes qui ont un trouble d'apprentissage. Et dans quelques instants, on rencontre Luc Simard, directeur responsable de la représentation de la diversité culturelle à la télévision de Radio-Canada. C'est non seulement l'occasion de s'intéresser avec lui à la place des minorités visibles dans sa propre maison, mais aussi les personnes en situation de handicap et peut-être aussi d'autres lieux, puisqu'il a initié des discussions avec plusieurs acteurs de la télé en diversité. Tout ça sur Canal M, la radio de Vues et Voix. Avec nous en studio, Luc Simard, directeur responsable de la représentation de la diversité culturelle à Radio-Canada, donc pas seulement la télévision. Merci de la précision, M. Simard. Bonjour.
Bonjour, bonjour. Ça me fait plaisir.
C'est une papier tâche que vous avez à la maison de Radio-Canada. Pour les gens qui nous écoutent et qui voient de plus en plus d'artistes en situation de handicap, de jeunes aveugles ou des jeunes en fauteuil qui étudient en communication, comment vous tentez de les recruter à l'interne, à Radio-Canada?
Bien, je dirais qu'on tente de les recruter à peu près de la même manière qu'on recrute l'ensemble de nos employés. Par exemple, en information, alors moi, je suis un produit de l'information. Ça paraît peut-être pas dans le titre que j'occupe, mais je viens de ce secteur.
Ça paraît dans votre voix, je dois vous avouer.
Alors, j'ai fait beaucoup de radio, j'ai fait de la télé aussi. J'ai été responsable d'émission. J'ai été d'abord journaliste reporter. Et on recrute beaucoup de jeunes qui sortent des écoles de communication et de journalisme en particulier. Mm-hmm. Or, si des jeunes, que ce soit la minorité visibles ou de jeunes autochtones ou de jeunes avec des handicaps ne se retrouvent pas dans ces écoles de communication, dans ces écoles de journalisme, il est très difficile pour nous de les accueillir par la suite parce que notre principal mode de recrutement, c'est vraiment les étudiants à l'université dans des programmes qui mènent au journalisme. Alors, des fois, c'est journalisme comme tel, d'autres fois, c'est sociologie, sciences politiques, anthropologie, droit, enfin, toutes sortes de carrières qui permettent de comprendre comment fonctionne la société. Et donc, on dépend de ça. Et on remarque qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes avec des handicaps en particulier dans ces écoles. Donc, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent chez nous, qui postulent à la maison de Radio-Canada.
Mais vous avez quand même remarqué, dans les dernières années, c'est beaucoup déployé sur le web des médias. Et d'ailleurs, on y retrouve plus souvent des personnes en situation de handicap. Est-ce que c'est un lieu de recrutement auquel vous pensez?
Je ne dirais pas que chez nous en particulier, on les retrouve là. C'est sûr que les plateformes numériques, tout ce qui est de production d'informations numériques, mais de production numérique en général, que ce soit en variété ou en série dramatique, les fameuses téléséries, évidemment, on les consomme de plus en plus sur ces plateformes numériques. Donc, et on sait que dans le groupe le plus jeune de citoyens, on est essentiellement sur ces plateformes numériques jusqu'à temps qu'on atteigne un certain âge.
Et qu'on écoute la radio.
Et qu'on écoute la radio. Alors, mais en général, évidemment, les plus jeunes ne sont pas beaucoup à la radio, ne sont pas beaucoup à la télé, disons, traditionnelle, entre guillemets.
Oui, bien. Mais d'ailleurs, j'aurais envie de revenir au sens de tout ça, parce qu'on souhaite améliorer la diversité à l'écran, à la radio, partout dans les médias, Radio-Canada et ailleurs. Mais vous savez, vous êtes certainement au fait, plusieurs chercheurs, notamment Gerbner de l'Université Temple, prétend que les jeunes croient davantage à leurs possibilités quand ils sont représentés à l'écran ou dans les médias. Vous achetez cette théorie-là?
Oh, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec cette interprétation. C'est clair que si on ne se voit pas, on ne s'entend pas, on n'a pas envie d'aller travailler quelque part, tout simplement parce qu'on pense que ce n'est pas pour nous. Mm-hmm. Si on n'a pas de modèle, on ne peut pas savoir que c'est possible. Il faut d'abord y croire. Hein. Mais bon, on entend toutes sortes de choses aujourd'hui, croire ses pouvoirs, etc. C'est pas toujours aussi facile que ça, mais si on voit des gens, si on les entend à la télévision, à la radio, si on est capable de les lire sur les plateformes numériques et qu'on sait qu'ils souffrent ou qu'ils vivent avec un handicap comme nous, ça peut nous donner l'idée d'y aller. Évidemment, dans une boîte comme Radio-Canada, dans n'importe quel grand média, la plupart des gens qui y travaillent ne sont pas à l'antenne. On ne les voit pas, on ne les connaît pas par leur nom. Moi-même, je ne suis plus à l'antenne, j'ai déjà été. Mais donc, l'immense majorité des gens sont derrière l'antenne, sont dans des tâches de soutien, que ce soit en finance, en administration, en communication, en revenus, etc., etc. Donc, un des défis, c'est de montrer aussi ces gens-là.
Oui.
Parce qu'on ne les voit pas à longueur de journée à la télévision. Alors, il faut trouver des occasions, donc, de présenter notre personnel et donc d'ouvrir les portes de Radio-Canada. Et d'ailleurs, c'est une invitation que je ferai ici. S'il y a des groupes qui ont envie de venir nous voir à Radio-Canada, pas juste pour visiter les installations, parce qu'on fait aussi ça, visiter les installations, mais après ça, venir discuter avec des gens de chez nous, avec des gestionnaires en particulier. Alors, moi, je lance l'invitation parce que je pense que c'est une bonne façon, d'abord pour des gens du public, de venir voir comment ça marche chez nous, derrière la scène, et pas juste ce qu'on peut regarder ou entendre à la radio.
Oui, même si ça attire beaucoup le devant de la scène, il y a plein de lieux où on peut faire valoir notre diversité, si je peux dire.
Tout à fait. Mais en plus, en venant à Radio-Canada, donc en venant à la maison de Radio-Canada, on peut rencontrer des gens qui y travaillent et voir un peu ce que ça veut dire travailler dans un endroit comme ça. Ça nous permettrait de faire du recrutement aussi.
Bien, je vais vous aider pour le recrutement et donc je vous inviterai à nous dire à quel point les personnes en situation de handicap travaillent dans tous les secteurs ici Radio-Canada.
Je ne vous cacherai pas, Benoît, qu'il y en a très peu.
Ouais.
Il y en a très peu et c'est le groupe désigné, parce que c'est la terminologie qu'on utilise au Canada pour parler des groupes qu'on désigne et pour lesquels donc on veut faire davantage de place à l'intérieur des médias en particulier. C'est pas propre à Radio-Canada, tous les médias ont ce défi-là. Alors, dans ces groupes désignés qui comprennent les Autochtones, par exemple, les minorités visibles, il y a le groupe des gens avec handicap et c'est là qu'on réussit le moins bien.
Mm-hmm.
Pour toutes sortes de raisons...
C'est le groupe qui a le plus de difficultés, vous seriez peut-être tenté de dire.
Je suis persuadé que vous dites vrai. Tout à l'heure, je disais qu'ils ne sont pas dans les écoles de journalisme. C'est déjà un problème pour ce qui est du travail en journalisme. Mm-hmm. Mais si on prend l'ensemble des carrières, on peut imaginer qu'ils doivent être en finance, en communication... en revenus, en ingénierie, etc. Ce sont tous des emplois qu'on trouve dans une boîte comme Radio-Canada, mais on les trouve très peu à l'intérieur de Radio-Canada, peut-être parce qu'on donne l'impression d'être inaccessible, justement. Et là, on revient à la question que vous me posiez tout à l'heure. Comment se montrer accessible? On peut se montrer accessible par l'antenne, par la télévision, par la radio, par les plateformes numériques.
Mais c'est sûr que votre organisation, souvent dans les médias, commande une certaine professionnalisation avant mm-hmm. d'y arriver. Donc, c'est sûr que si il n'y a que des plateformes comme la nôtre ou Canal M, en fait, ou Ami Télé, pardon, qui offrent des lieux où les personnes en situation de handicap peuvent être à l'écran, par exemple. Eh bien, c'est plus difficile ensuite d'aspirer ou peut-être travailler à Radio-Canada.
Oui, il y aurait sans doute des ponts à établir. Quand on regarde l'antenne, c'est sûr qu'on parle quand même beaucoup de situations qui réunissent des gens avec handicap à la télévision. Alors, on vient de passer le mois de septembre. Évidemment, c'était les Jeux paralympiques de Rio. Évidemment, on a fait une couverture absolument considérable de ça. On reçoit dans nos émissions de variété, en particulier des athlètes paralympiques, où on reçoit des gens avec handicap. Mmh. Il y avait Jérémy Gabriel, le chanteur, qui était là dimanche soir dernier, tout le monde en parle. En information, on fait des reportages là-dessus, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut véritablement dire que nous avons besoin aussi d'employés. Alors, il y a la difficulté aussi propre. Quand on a un handicap, on ne le montre pas en général. On ne le met pas nécessairement en avant parce qu'on ne veut pas être discriminé à cause de ça. Alors, c'est un problème qui existe au départ.
Mais il n'y a pas de discrimination de ce type à Radio-Canada.
Non, absolument pas.
Et donc, dans vos manières de recrutement, vous indiquez clairement que les personnes qui appartiennent à la diversité sont particulièrement invitées
à
l'indiquer, même dans leur lettre de motivation?
Oui, oui. Alors ça, c'est intéressant. Ce qu'on note, c'est que malgré qu'on l'indique, quand vous allez sur le site d'emploi de Radio-Canada, hein, c'est accessible par Internet, vous allez voir que c'est indiqué noir sur blanc.
Mm-hmm.
Ce dont on s'aperçoit cependant, c'est que les nouveaux employés ne nous croient pas sur parole.
Ouais.
Et en général, n'identifient pas s'ils font partie d'un de ces groupes dont je parlais tantôt, que ce soit une personne avec handicap ou minorité visible. Cependant, puisque nous faisons un relevé annuel de ça, on s'aperçoit qu'après quelques temps à Radio-Canada, après un an ou deux à Radio-Canada, ils l'indiquent. Parce que là, ils sont convaincus qu'on ne fera pas d'exception contre eux, que ça ne leur nuira pas s'ils identifient qu'ils sont, par exemple, avec handicap.
Alors, donc, quand le lien de confiance est là, ça va mieux.
C'est ça.
Dans la boîte, j'entends bien, au niveau des ressources humaines, je vois bien vos efforts aussi. Vous avez participé à toutes sortes d'initiatives dans le but d'améliorer la représentation des personnes en situation de handicap et des personnes des minorités. Je sais, vous avez déjà collaboré, j'imagine, à la table de concertation avec l'UDA, c'est bien ça?
Oui, bien en fait... On l'a lancé.
Oui, vous l'avez lancé.
On l'a lancé. C'est moi qui préside les rencontres et c'est une idée qu'on a eue il y a 2 ans. Donc, on a un groupe de travail sur la diversité dans les dramatiques, c'est ainsi qu'on le nomme, où on essaie d'apporter un peu plus de diversité à la fois dans les histoires qu'on raconte dans les téléséries et dans les comédiens qu'on voit à l'antenne. On a des succès modestes jusqu'à maintenant. Ce qu'on a comme principal succès, c'est...
C'est quoi les proportions? Parce que vous avez des outils, j'imagine, pour calculer... le contenu ou la proportion dans les contenus?
Oui, mais c'est intéressant de le mentionner. Il n'y a pas encore au Québec, ni d'ailleurs ailleurs dans le monde, de mesures universelles et acceptées par tous les diffuseurs ou les producteurs sur ce que serait la mesure de la diversité à l'écran. Alors, on travaille d'ailleurs à l'intérieur de ce groupe, justement cette année, sur une mesure de la diversité qui soit universelle, scientifique et accepté par tous, parce qu'il faudra avoir l'acceptation de tous. Vous savez, les téléséries sont produites par des producteurs privés. On embauche des comédiens qui ne sont pas des employés de Radio-Canada.
Et les rapports, parce que toutes les chaînes ont des rapports à faire eu égard à la diversité, et c'est variable vraiment d'une institution à l'autre.
Oui, si vous avez consulté certains de ces rapports, des fois, c'est des listes d'épicerie.
Oui, voilà. Est-ce que vous êtes fier du bilan de Radio-Canada?
En matière de représentation des handicapés à l'antenne, je dirais que je serais assez fier parce qu'on parle beaucoup de barrières qui se présentent face aux personnes avec handicap. En matière de présence à l'intérieur du personnel de Radio-Canada, certainement pas. Il faudrait faire beaucoup plus.
Donc, j'aurais beaucoup aimé de parler avec vous des suggestions, des possibilités qu'on aurait d'améliorer cette représentation-là. Mais
vous me réinvitez?
Ben voilà, on vous réinvite. Et d'ici là, on peut se rendre sur le site de ici.radiocanada.ca, retrouver talent et diversité. C'est une section où vous mettez à jour votre travail. Et il faut vous réinviter, Luc Simard. Merci beaucoup.
Bien, tout le plaisir était pour moi, Benoît.
Juste pour faire un point encore, on était avec Luc Lavoie de la diversité à Radio-Canada. On me dit qu'il y aura bientôt un Luc Simard, pardon, je suis désolé, Luc Simard. On sera bientôt à lancer un colloque sur la question, alors. On pourra en discuter plus longuement. Mais on serait dans une nouvelle ère des communications. On nous apprenait aussi le CRTC plus tôt en septembre. Et avec nous, pour parler du service de relais vidéo, Patricia Valadeo, gestionnaire des relations avec les médias au CRTC. Bonjour, Patricia.
Bonjour, Benoît.
Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, ce service de relais vidéo, dites aux gens qui nous écoutent en quoi ça consiste.
Bon, le service de relais vidéo est un service de télécommunication de base qui permet aux personnes dont la langue première est la langue des signes d'effectuer ou de recevoir des appels vidéo au moyen d'un ordinateur ou d'un appareil doté de connexion Internet ou d'un cellulaire. C'est un outil de vidéoconférence pas protocole Internet. Donc, ça permet aux personnes dont la langue première est la langue des signaux de parler et de s'exprimer avec rapidité avec des personnes dans le téléphone à voix, à vocaux.
Bien. Et donc, les gens que vous touchez essentiellement, ce sont les personnes qui parlent le LSQ, la langue des signes en anglais aussi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui seront susceptibles de profiter de cette innovation?
Bon, au Canada, les services fournis pour les utilisateurs de la langue de signes American Sign Language.
Oui.
Et pour la langue de signes québécoise, on a des interprètes qui vont les aider à communiquer leur message.
OK. C'est quoi les avantages? Parce qu'il y a eu des changements. Il y a déjà eu un service pour les personnes qui ne pouvaient parler, par exemple. C'est quoi les avantages nouveaux de ce service-là?
Bon, la différence entre ça et un service de texto comme il en a encore, c'est que ça aide les personnes dont la première langue, c'est la langue des signes, pour se communiquer, s'exprimer avec une certaine rapidité qui laisse passer, par exemple, une gamme d'expressions.
Oui. On est respectueux de l'expressivité particulière de la langue, c'est ça, hein?
Exactement.
Oui.
Exactement. Donc, ça donne vraiment une qualité de téléphonie.
OK. Puis donc, ça respecte aussi, ça reconnaît un peu mieux ces langues-là, parce qu'on dit bien souvent, ah, ben on peut interpréter, on peut transformer ça en mots, on peut transformer ça en texte, mais là, on respecte le fait que les gens s'expriment ainsi.
Exactement. Et c'est intéressant aussi, c'est important pour, par exemple, les utilisateurs de cette langue, de ces langues-là, de se communiquer avec leur médecin, avec leur dentiste.
Exact. Oui.
C'est pas seulement important pour les personnes qui répondent à leurs besoins, mais à leur famille aussi.
Et même le SRV Canada offre maintenant l'accès au 911. C'est très important, ça.
Oui, exactement. Il offre l'accès à 911 pendant les heures que le service est disponible. Donc, il en a une application dans leur ordi ou la tablette, il peut mettre ça en applicatif. Et pendant les heures de service, les appels d'urgence sont directement placés au dépôt de la file d'attente pour des appels qui sont traités par un interprète de vidéo spécialement formé pour ce genre d'appels.
Ah, mais donc, quand vous dites heure de service, en dehors de ces heures-là, c'est plus compliqué d'utiliser le 911?
Bon, durant les heures que le SRV n'est pas offert, les utilisateurs peuvent toujours utiliser autres moyens qui existent déjà, comme par exemple le téléscripteur
Internet, ouais.
Protocol, ou le texto 911 où il est offert.
OK. Donc, tous ces services-là, si je comprends bien, sont gratuits.
Sont gratuits, oui, exactement. Si les coûts sont fournis déjà, les services sont financés par un fonds de contribution nationale du Canada, dont en cas de certains appels, par exemple les appels internationaux ou les appels à quelque part aux États-Unis, il aura besoin d'un service de composition internationale. Okay? Mais les renseignements pour ça sont tout dans la page de SRV Canada VRS.
Donc, on va le redire, bien sûr, srvcanadavrs.ca/fr, quand c'est en français, c'est ça?
Exactement.
Et ça va toucher combien de gens à travers le Canada?
Je n'ai pas un chiffre en ce moment avec moi, mais je peux vous retourner pour ça.
Oui, ben en fait, on a entendu à peu près 20 000 utilisateurs, utilisatrices potentiels. Et donc, quand les gens vont aller sur le service Internet, la procédure est simple, ils devront peut-être télécharger. Comment ça va fonctionner?
Ils peuvent télécharger un applicatif. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est télécharger un applicatif qui va le donner à un numéro de 10 chiffres, sans frais. Et toutes les informations, comment s'inscrire, comment fonctionne, sont vraiment sur le site aussi. Donc, les utilisateurs doivent avoir un Internet de haut débit et un ordinateur ou un téléphone intelligent.
OK. Donc, c'est sur les appareils qu'on peut utiliser. Donc, je rappelle une dernière fois, c'est très important pour les gens qui nous écoutent, le SRV Canada VRS.ca/FR. Merci beaucoup, Mme Patricia Valadeo.
Merci, Benoît.
Un homme plein de vision et qui veut qu'on soit libre grâce au logiciel libre. Notre chroniqueur techno, Miguel Ross, est avec nous. Bonjour, Miguel Ross.
Bonjour, ça va bien?
Oui, merci beaucoup. Content de vous avoir depuis Québec. La dernière fois, il y a un mois, on s'était présenté aux auditeurs, mais ça fait bien longtemps que les gens vous connaissent. Et aujourd'hui, vous voulez nous parler de votre projet Visu Libre. En quoi ça consiste exactement?
Bon, le projet Visu Libre, c'est très simple. Ça consiste à prendre des ordinateurs qui sont plus ou moins âgés. On pourrait dire quand
attention,
même...
Attention, faites pas d'âgisme, là. C'est une belle qualité que d'être âgé.
Oh, oui, ça c'est sûr. Mais quand je dis plus ou moins âgé, on parle peut-être des ordinateurs d'une dizaine d'années, puis peut-être un petit peu plus.
OK.
Que ce qu'on fait avec, ben plutôt que de les recycler à l'éco-centre, évidemment, ils vont probablement finir là à un moment donné. Mais en attendant, vu qu'ils sont encore en vie, façon mm-hmm. de parler, si on met des guillemets entre ça, parce qu'évidemment, c'est du matériel, donc du matériel, ça ne vit pas. Donc, vu qu'ils sont encore en fonction, ben nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les récupère et on leur met du logiciel libre dedans, justement, pour alléger leur façon de faire, parce qu'évidemment, ouais. ces ordinateurs-là, ils ont quand même peut-être été dans des entreprises, ils ont travaillé beaucoup.
Mais c'est important de dire ça aux gens parce que souvent, le logiciel libre, ça prend moins d'espace que les gros logiciels commerciaux et sur des machines un peu plus vieilles, ça roule mieux. C'est ce que vous nous dites.
Ben, c'est que, évidemment, le système d'exploitation libre que j'installe, qui est Linux, ben c'est un système qui prend beaucoup, beaucoup moins de ressources au niveau mémoire, au niveau processeur, au niveau... si on parle un petit peu technique, là, à ce niveau-là, ça prend beaucoup moins de ressources.
Parfait.
Si
puis vous avez réussi à sauver combien de vies d'ordinateurs comme ça, Miguel?
Eh bien, je pourrais vous dire que présentement, j'en ai à peu près une dizaine qui ont été livrées.
OK.
OK, donc, dont je dirais deux ordinateurs. Est-ce que c'est deux? Non, un ordinateur portable. Puis des ordinateurs de bureau. Donc, okay. il y en avait probablement 8 à 9 ordinateurs de bureau qui ont été recyclés, refaits. Et puis, je pense à ça, deux portables, parce qu'il y en a eu un que j'ai même tiré au Technovision de 2015.
OK.
De l'INCA.
Le Technovision, c'est quoi exactement? C'est le colloque?
C'est le salon des technologies au niveau pour les non-voyants qui est organisé par l'INCA.
Mm-hmm. Qu'on a reçu la semaine dernière, d'ailleurs.
Ah oui?
Ben oui, vous n'étiez pas là, mais on aurait dû vous faire rencontrer. Écoutez, j'aimerais ça que vous me dites à quel point... Est-ce que les employeurs, par exemple, trouvent ça compliqué d'avoir des postes comme ceux-là là, qui sont bien réusinés puis utiles pour
vraiment,
les personnes?
Écoute, c'est pas vraiment à des employeurs que je me...
OK, c'est à des personnes.
C'est à des personnes qui sont à faible revenu surtout. Parce qu'on s'entend-tu que les gens... On s'entend-tu que d'après INCA, je sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, mais d'après INCA, on dit que 70% de la population mal ou non-voyante du Québec ne travaille pas.
Ouais.
Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on s'entend-tu que, disons les vraies choses, là, sur l'aide sociale, là, avec un petit chèque là, de 900 $, on ne peut pas s'acheter un ordinateur.
C'est certain. Ni avoir de connexion Internet, c'est très difficile. Mais pour le rappeler aux gens, votre projet sert aussi à ce que ces machines, ces ordinateurs... viennent un peu compenser les déficiences ou pallier au handicap. C'est important de le dire, ça aussi.
Oui, puis ça vient aussi briser aussi l'isolation, parce qu'évidemment, la personne qui a un ordinateur ben, gratuit, parce qu'évidemment, c'est gratuit en passant, là, je le dis, je donne les ordinateurs, je les vends pas.
C'est un geste social. Ouais.
Pour donner une chance à ces gens-là, justement, d'être capable d'avoir un ordinateur. Donc, je ne les vends pas, je les donne, je les prépare et je les donne à ces gens-là. Et
si ça si on peut, en une minute, dire ce que vous faites, en fait, à quoi auront accès les personnes sur cet ordinateur-là? Qu'est-ce que ça va aider dans leur vie, au-delà du fait que ça va lutter contre l'isolement?
Ben, c'est ça, ben, comme je dis, c'est ça le principal but, parce que l'isolement, c'est l'Internet. Les gens vont pouvoir aller sur Internet, ils vont pouvoir découvrir des nouvelles choses.
Oui, bien
Ils vont
sûr.
être capables de faire comme tout le monde, mais avec du matériel plus vieux.
Mais il y aura aussi système de synthèse vocale,
Oui,
des
oui.
moyens
Les
d'aider.
ordinateurs sont adaptés. C'est du logiciel libre adapté, là.
Parfait.
On ne donne pas un Linux comme ça, pas adapté, sans adaptation, là.
OK. Puis, les gens qui nous écoutent ont peut-être des ordinateurs, même déjà en partie adaptés ou à tout le moins des ordinateurs dont ils n'ont plus besoin. Comment on vous contacte, Miguel Ross?
Ben, il faut me laisser un courriel à info à commercialvisulibre.org, qui est mon site Internet aussi.
Ah oui.
Donc, sur ce site-là, je dis tout. J'écris tout ce qui se passe au niveau des portables que je distribue, des ordinateurs. Donc, j'inscris toujours. Ce site-là est quand même régulièrement à jour. J'inscris régulièrement ce qui se passe quand j'ai de nouveaux ordinateurs qui rentrent, quand j'ai quelque chose à distribuer. C'est écrit sur ce site-là.
OK. Et donc, on indique précisément aux gens, ils peuvent aller vous fréquenter, si on peut dire ça comme ça, au www.visulibre.org. Merci
Oui.
beaucoup, Michael Ross.
Mais merci beaucoup, ça fait plaisir.
À très bientôt.
À très bientôt.
Vous écoutez Accès libre avec Benoît Rassette.
La semaine dernière, on a beaucoup parlé des 50 ans de la STM. D'ailleurs, on aura Philippe Schnob la semaine prochaine, le président de la dite STM. Mais il ne faut pas oublier ces 50 ans de l'Association québécoise sur les troubles d'apprentissage qui est devenue, il y a 2 ans, l'Institut sur les troubles d'apprentissage. Avec nous, Lucille Doiron, administratrice de l'Institut. Bonjour, madame.
Oui, bonjour, monsieur.
Merci d'être avec nous pour nous aider à un peu mieux comprendre tout ce parcours que vous avez fait.
Ben, certainement.
Donc, c'est le mois d'octobre. C'est aussi le mois de la sensibilisation aux troubles d'apprentissage. Les gens ont remarqué là, dans les dernières années qu'il y avait plus de personnes en situation de handicap déclarées dans les universités au niveau de l'école, tout ça. Et on remarque, en regardant un peu plus près, que ce sont les personnes qui ont des troubles d'apprentissage. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va? tout ce monde-là?
Alors, ben, je vous dirais que ça va de mieux en mieux si justement on observe une déclaration spontanée des étudiants postsecondaires quand ils arrivent à l'université pour pouvoir obtenir des services adaptés à leur réalité quotidienne.
Mais donc, c'est quand ils sont un peu plus vieux que c'est facile, le diagnostic ou l'autodéclaration.
Mais c'est pas que c'est plus facile, c'est que les gens, comme ils ont depuis le primaire des services adaptés très souvent, maintenant, quand ils arrivent au postsecondaire, ils ont des habitudes, ils ont des façons de travailler, ils ont développé des stratégies très, très payantes pour réussir leur scolarité. Donc, ils veulent poursuivre.
Oui. Et c'est important parce que souvent, quand on ne peut pas nommer, par exemple, son trouble d'apprentissage ou qu'on n'a pas appris à composer avec, on vit beaucoup d'isolement, beaucoup de détresse peut-être même.
Absolument, absolument. Et puis, bon nombre de jeunes qui ne sont pas à l'université, qui ne sont pas au collégial, ni même au postsecondaire, et qui terminent pas leur secondaire au secteur jeune, ont souvent des troubles d'apprentissage qui n'ont pas été diagnostiqués ou n'ont pas été soutenus de façon adéquate. Donc, ils se retrouvent en situation de décrochage scolaire très rapidement dans son processus de scolarisation.
Donc,
qui amène effectivement beaucoup de détresse.
Voilà. Bien, de la détresse, on veut lutter contre et c'est un peu le même combat qu'avec le décrochage scolaire. Je vous ferai faire un bond de 50 ans, parce que c'est vos 50 ans qu'on célèbre. Oui. C'était comment à l'époque les enfants qui avaient des troubles d'apprentissage? Est-ce que vous avez un peu nous raconter là-dessus?
Premièrement, je vous dirais que la scolarisation obligatoire est là depuis 1986, ce qui finalement, ça fait pas très longtemps.
Ah oui, vraiment?
Mm-hmm. Donc, les troubles obligatoire jusqu'à 16 ans, on s'entend là?
Mm-hmm.
Alors, les troubles d'apprentissage à cette époque-là, si on regarde il y a 50 ans, donc en 1966, les jeunes cessaient d'aller à l'école et ils avaient des étiquettes de doubleur, de pas vite, ou ouais. Appelons ça comme on veut.
Ouais.
Alors que fondamentalement, c'était des jeunes et des enfants et des adolescents qui auraient pu avoir un parcours extrêmement prometteur. On appelait ça adaptation scolaire, enfance inadaptée, on appelait ça des classes spéciales.
Ouais. Hein? Des classes allégées, j'entendais ça souvent.
Oui,
ouais.
Écoutez... Et ça, c'était à partir de 1970 seulement, mm-hmm. C'était avant ça. Bon, ben, les jeunes arrêtaient l'école et il n'y avait pas de souci à arrêter l'école parce qu'on travaillait avec les parents. Il n'y avait pas seulement les enfants qui avaient des troubles ou des difficultés d'apprentissage ou une lenteur intellectuelle qui arrêtaient l'école à cette époque-là. Il y avait des gens extrêmement doués qui travaillaient avec leurs parents parce que c'était le travail à la terre.
Ouais.
Donc, il n'y avait pas d'étiquette si stigmatisante que maintenant.
Ou on commande, ou on demande plus de scolarité. Notre société est devenue plus exigeante à cet égard-là. Et donc, c'est dans quelle foulée exactement que votre association, à l'époque, puisque vous avez changé de nom depuis, comment vous racontez ce début là, de l'Association québécoise sur les troubles d'apprentissage?
Mais en fait, c'est un groupe de parents, en 1966, qui se sont réunis, c'est un médecin, il s'appelait le docteur Maurice Sabin et sa femme, Hélène, qui invitait une douzaine de parents anglophones à se réunir pour discuter dans une maison de leurs enfants qu'ils connaissaient, tu sais, qui vivaient des troubles d'apprentissage à l'école, mais que l'éducation ne pouvait pas répondre à ce moment-là à leurs besoins. Alors, c'est tout simple, c'est des gens, comme aujourd'hui, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de références, qui ont besoin d'accompagnement, pour pouvoir avoir des solutions heureuses pour leurs enfants.
C'est les premières personnes que vous aidez, au fond, les parents?
Oui.
Encore aujourd'hui?
Oui, encore aujourd'hui, nous recevons 3 000 à 3 500 appels téléphoniques et courriels, mm-hmm. et des rencontres de passage là, et des formations sur place, où les parents sont anxieux, sont très, très, très démunis. Encore aujourd'hui, et les parents démunis, ce n'est pas des parents nécessairement qui eux-mêmes vivent des situations de pauvreté, là, si on veut.
Ouais.
C'est tous les parents qui apprennent que leur enfant a un trouble d'apprentissage ne savent pas en premier lieu qu'est-ce qu'on doit faire.
Ah, c'est ça, on ne sait pas comment commencer.
À qui doit-on parler?
Mm-hmm.
Quelles sont les meilleures ressources pour avoir un diagnostic? Comment mon enfant à l'école il va se faire des amis? S'il bouge beaucoup avec une dyslexie et en plus il y a un déficit d'attention, comment est-ce qu'on va être capable de l'accompagner correctement pour qu'il termine même son primaire? Hein? J'ai une anecdote. En juin dernier, à la fin de l'année, alors que les bulletins sont tombés et tout ça, et toutes les rencontres de parents sont terminées, il y avait 25 appels sur un seul téléphone, là. Ça, c'était dans une journée. Et pas un seul de ces appels-là n'était pas un parent en détresse.
Alors, oui, parce qu'il est difficile en plus d'entrer, d'accéder aux ressources. Donc, il faut vraiment accompagner les gens dans ces premières, j'oserais dire, luttes pour obtenir les services.
Ben oui. Et puis, effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup de
coupures dans les dernières années. N'hésitez pas à le dire. On le dit très souvent à l'émission.
oui, mais je vous dirais qu'il y a un virage important. On est obligé de le dire. Il y a un virage dans le moment au ministère de l'Éducation,
mm-hmm.
et dans différents autres ministères sur tout le travail qu'on doit faire pour scolariser, aller au maximum du potentiel de chaque individu.
Donc, il y aurait des ressources supplémentaires qui viendraient aider les personnes qui ont des troubles d'apprentissage en milieu scolaire?
Les ressources ne sont pas... Comment je vous dirais? Peut-être que c'est pas... Et ça, c'est peut-être pas toujours une analyse de besoin de ressources, c'est peut-être une analyse de comment les ressources sont déployées et à qui ils servent, à qui elles servent ces ressources.
Donc, une priorisation, au fond.
Oui. Okay. Et peut-être que le ministère a envie de faire un petit peu autrement, et on l'entend souvent, notre ministre, en parler. On souhaite que tout ça donne les résultats qu'il semble vouloir amener sur le terrain, là.
Et donc, vous êtes à travailler, vous serez probablement à table, j'imagine, pour discuter de cette nouvelle réorganisation des services?
Mais dès que la table sera mise, on sera très intéressé à s'y attabler.
Bon, excellent. Je vous souhaite un grand buffet. Mais bon, faut pas exagérer quand même. Revenons quand même à votre mois d'octobre, qui en est un de sensibilisation. Quelles seraient, disons, les grandes activités en une minute, auxquelles les gens pourraient participer?
En premier lieu, l'activité la plus entre guillemets, payante pour les parents actuellement, c'est le 5 novembre prochain.
OK.
Il y a le colloque des parents qui se passe durant une journée. OK. Et il y aura des activités, des grands experts qui viendront vulgariser pour les parents et puis pour l'Assemblée en général. Et il y aura également des activités pratiques. Il y aura même des consultations privées, si on le souhaite.
Avec des professionnels de la psychoéducation, etc. Ouais.
Avec des orthophonistes, avec des psychologues, avec des travailleurs sociaux. Donc, on va toucher à la dyspraxie, la dyslexie. On va toucher également les difficultés de comportement, la dysphasie. Il y aura également un atelier sur le TDAH.
Si populaire, malheureusement.
Souvent.
Oui.
Et puis, avec un dîner réseautage.
OK.
Donc...
C'est pas très cher, ça?
Non.
OK.
Pour 99 $ ou 149 pour une famille.
OK.
Il n'y a pas de souci. On accueille tout le monde. Et puis, cette journée-là, pour avoir assisté à quelques-unes, c'est effectivement une journée où les parents peuvent en ressortir mieux équipés.
Bien, on les souhaite. Écoutez, l'émission, le segment tire un peu à sa fin. J'aimerais beaucoup que les gens aillent visiter pour en savoir plus sur votre mois. Donc, il est possible de pianoter le www.institutta.com ou INSTITUTTA.com. Si les gens avaient la dysorthographie, on a pris le temps de bien nommer les lettres de votre site web. Merci beaucoup, Lucille Doiron.
Ça me fait plaisir. Et puis, on invite vraiment tous et chacun là à venir nous rejoindre le 5 novembre.
Donc, rendez-vous 5 novembre. Merci encore.
Merci. Bonne journée.
Bonne journée.
Je vais au cinéma. Je vais voir n'importe quoi. Je m'en fous pourvu que ça me parle pas de toi et moi. Et là je suis bien tombé. Je suis bien tombé, tu vois. C'est l'histoire d'un type qui meurt pour ses enfants. Enfin je crois, j'ai pas suivi vraiment. Il y avait cette fille. Seule qui me fait l'œil en sortant, c'était pas innocent,
non,
pas innocent. Le thème du générique, place Clichy sous la pluie.
Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai marché.
Oh, j'ai marché.
J'ai pris la rue des
Dames,
j'ai pris la rue des Batignolles, j'ai pris le boulevard des Batignolles. J'ai marché. J'ai pris la rue de Turin. place Clichy. Et là,
monsieur, 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 monsieur,
elle a commencé tout bas.
C'est que
tu avais fait tomber ça.
Tomber ça.
Monsieur, 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 elle a répété cinq fois.
Cinq fois.
C'est que tu avais fait tomber ça.
Ah ben merci. Il est cassé ? Non, si, il est cassé. Merci mademoiselle. Ouais, bonne soirée.
Je vais au cinéma. Je vais voir n'importe quoi. Je m'en fous pour des sympas de toi et moi. Je vais au cinéma. Je vais voir n'importe quoi. Je m'en fous pour que la caissière soit sympa. Je vais au cinéma. Je vais voir n'importe quoi. Je m'en fous pour que ça va toi et moi.
Je vais au cinéma, Arnaud Florent Didier. Pièce de prédilection, puisqu'on va parler dans quelques instants du Festival de films Au Contraire, un festival du film sur la maladie mentale qui est présenté notamment à l'auditorium Maxwell Cummings au Musée des Beaux-Arts, et ce, du 25 au 28 octobre prochain. Donc avec nous, son porte-parole, Christophe Davidson, comédien, j'oserais dire aussi stand-up du festival. Bonjour Christophe.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Oui, oui, pas mal. Et j'ai juste excusé, premièrement, de ma langue française. C'est pas assez bien que toute de ma langue anglaise.
Bah, écoutez, là, vous avez été longtemps à Just for Laugh.
Oui, c'est. Normalement, je fais les performances en anglais. Alors, c'est. J'ai juste, premièrement, m'excuser.
Non, mais écoutez, ça va, on vous entend. Mais l'événement en question, donc, est un événement bilingue. Il s'agit du festival Au Contraire. Pourquoi vous avez accepté d'être porte-parole de cette quatrième mouture du festival?
Ça commence au février de cette année. Et c'était de l'homme Danny Payne qui... Il me demandait à cause d'un post que j'ai fait sur Facebook, à cause de mon père qui avait fait suicider l'année dernière. Merci. Et il me demandait si je peux parler avec ça, et aussi à cause de parce que j'ai fait les performances en de l'humour au Just for Laughs.
Ouais.
Mais il ne sait pas que année 2010, j'ai fait une expérience quand je suis autour de l'Australie. J'ai fait une expérience d'un cycle de bipolar 2.
Bipolarité.
Merci.
Ouais.
Et... alors, c'était la première expérience de maladie mentale pour moi.
Ouais.
Mais il ne sait pas ça. Alors, quand je lui ai demandé à cause de mon père, j'ai dit tu as gagné, je suis plus fou que tu avais pensé.
Et là.
oui. Et alors, je pense que c'est ça. C'est une combination de l'expérience de ma famille.
Ouais.
Parce que je pense qu'ils sont venus prendre une nouvelle direction pour introduire les concepts de l'humour. Parce que c'est un sujet qui est normalement tout le temps, on est très, très triste.
Oui, c'est difficile. Très, très, ouais. Mais écoutez, vous ouvrez beaucoup de sujets à la fois, et attention si vous allez par là. Mais je voudrais seulement, avant de parler de cet humour, et peut-être de cet humour responsable que vous servez mieux que d'autres, voilà, c'est l'éditorial qui est fait, je voudrais quand même boucler, parce que vous avez vécu des épisodes difficiles dans votre vie, évidemment, au niveau familial, vous-même, vous avez vécu des épisodes de bipolarité. Est-ce qu'il est possible de rire avec tout ça?
Oui, je pense que c'est possible. Je pense que c'est nécessaire. Ça, c'est ce que je pense. C'est pas toujours. Il y a les moments tellement sérieux. Mais je sais pas. Pour moi, je sais que pendant les funérailles, pendant les moments qui sont plus tristes,
ouais,
il y a les éléments de l'humour. Ça, c'est un.
C'est presque un mécanisme de défense.
Hein, oui,
vous connaissez l'expression?
Oui, je comprends. C'est absolument nécessaire. C'est pas comme tu pars rire pour tout le temps, ou rire sur tous les sujets comme ça. Ça, mm-hmm. c'est, je pense, une autre maladie mentale. Si tu es toujours rire, pour mais il y a les moments qui ont. Je pense que c'est un aspect pour healing.
Oui, pour se guérir.
C'est ça.
Voilà. C'est ça. Est-ce qu'il y a un film, parce que je veux juste vous dire, on parle beaucoup d'humour, là, c'est heureux, mais ce festival que vous représentez est un festival de films. Est-ce qu'il y a de l'humour dans ce festival-là, d'ailleurs?
Pour moi, j'ai pas vu tous les films.
Okay.
Je suis très exigé pour voir les films.
Et, oui, vous êtes content. Oui.
si quelqu'un qui veut juste aller au ACFF.ca pour voir les films qui sont là cette semaine.
Donc, on peut le répéter, si vous permettez, c'est super important, puisqu'on veut que les gens aillent voir vos films. Donc, c'est le ACFF.ca, c'est le site web où on peut croiser toute la programmation. Donc, vous alliez un peu par là, je pense, mais quel film il faut absolument voir, d'après vous?
Si c'est un difficile sujet parce que pour moi et pour les maladies mentales, mm-hmm. C'est un sujet très subjectif.
Okay.
Et c'est difficile pour moi à dire s'il y a un qui on doit voir parce que
Mais allez-y avec votre choix là, on vous a adopté déjà là, comme porte-parole, on va entendre votre choix à vous.
Oui, pour moi. Encore, moi, j'ai dit juste avoir aller au point CA et à ces points CA et voir s'il y a un sujet qui parle à quelqu'un personnellement.
Okay.
Pour moi, j'ai fait l'introduction pour la première soirée pour mardi le 25.
Oui.
Le film qui l'ouvre, les festivals.
Est-ce que vous allez nous offrir un moment d'humour?
Moi, je parle avec un peu de mon expérience juste avant que j'ai introduit le premier film.
Okay.
Alors, pour moi, c'est pas comme stand-up, c'est un peu mélange de. Je parle avec mon expérience, je parle avec les maladies mentales en général, mm-hmm. et après, j'ai fait l'intro du le premier film.
Okay.
Mais il y a toute l'information de ce film. Je suis hésitant à parler beaucoup trop de les films.
Non, mais ça va, il n'y a pas de problème. Je ne vous cuisinerai pas plus sur les films. Parlons peut-être de ce que vous pensez du lien entre le cinéma et la santé mentale, si vous permettez. Est-ce que vous pensez que ça aide quand on vit des difficultés de santé mentale, la dépression ou autre chose? Le cinéma, est-ce que ça peut nous aider?
Absolument. Parce que je pense que un des grands obstacles pour faire l'obstacle le stigma de
la santé
maladie mentale.
Oui.
La santé mentale, c'est on manque beaucoup de discussions. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on ne peut pas parler de ce sujet.
Oui.
Et ça, c'est une des grandes causes, je pense, de la santé mentale. Parce que c'est juste comme une maladie. les maladies mentales plus que physiquement, je pense qu'on doit être voir ça comme le même.
OK, donc dans le fond, ce que vous dites, juste pour qu'on se comprenne bien, c'est que le handicap physique et les handicaps sensoriels ou même la santé mentale, vous pensez qu'on peut trouver des liens entre tout ça?
Oui, on doit voir le même pour ça, parce que c'est comme une infection. Si tu as quelque chose que tu ne parles pas, mm-hmm. c'est comme on laisse
grimper la grippe.
C'est ça. C'est ça.
Bon.
Alors, je pense que c'est quelque chose qui ont les films. On va commence la discussion.
Ok.
Et commence. On va parler de ça et on va voir qu'il y a personne qui on n'est pas connecté de les maladies mentales.
Ouais.
Personnellement. Ou avec quelqu'un, un ami ou dans la famille, tout le monde on est connecté de ce sujet.
Oui, on est tous
touchés par ça. Mais pas tout le monde on parlait.
Voilà. Et donc, est-ce que les films qu'on présente durant ce festival permettent d'avoir des lieux où on en discute la santé mentale ou?
Oui, absolument. Ça commence parce qu'on voit les sujets. Je pense que je pense que c'est mercredi qu'on voit beaucoup des courts-métrages.
Oui, exactement. Il y a une soirée du court-métrage sur la thérapie le mercredi 26 octobre.
Oui, c'est ça. Alors, ça, pour ça, on prend beaucoup de sujets différents.
Mm-hmm.
Alors, on fait beaucoup des différents points pour commencer cette conversation.
Oui. Peut-être une question personnelle. Est-ce que vous sentez qu'il y a beaucoup de discrimination? Par exemple, récemment, on a vu ressurgir toute la question avec Mike Ward et le petit Jérémy. C'est sur son handicap physique dont on a beaucoup parlé en humour. Est-ce que vous trouvez qu'on blague de manière inappropriée avec la santé mentale?
Pour moi, mon opinion personnelle,
oui.
Je crois que c'est toujours avec les sujets qui sont pas juste le sujet de maladie mentale, mais pour tout.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qu'on met le plus important chose, c'est le contexte.
Ah oui.
Alors, mon opinion personnelle, tu peux faire des blagues de n'importe quoi, mais parce que c'est pas le sujet qui sont peu
qui sont compliqués, c'est ça. C'est pas les sujets qui c'est la manière de les aborder. C'est ce que vous dites un peu.
Oui, c'est l'intent, c'est l'émotion, c'est le et premièrement. À mon avis, c'est le contexte.
Bien. Ben, écoutez, on vous écoute, mais surtout, on va voir ces films. On peut retrouver la programmation au acff.ca. C'est du 25 au 28 octobre prochain et c'est le festival... C'est quoi le nom du festival?
C'est au contraire, festival.
Donc, c'est une belle... c'est un beau mot pour ouvrir la discussion. Au contraire, vous allez voir des films qui vont vous faire tourner. En tout cas, discuter, en tout cas. Merci beaucoup de votre collaboration. Bravo pour votre courage aussi. Je sais que en français, c'est pas toujours facile de prendre la parole, mais ça s'est très bien passé, je peux vous rassurer.
Ah, je veux me remercier.
Merci, Christophe Davidson, porte-parole du Festival de films Au Contraire. Je tiens aussi à remercier tous les invités qui sont passés à l'émission. D'abord, Luc Simard à Radio-Canada, qui est le grand responsable de la diversité, mais aussi Patricia Valadeo, Miguel Ross, notre chroniqueur, Lucille Doiron, et ce mois de sensibilisation aux troubles d'apprentissage. Merci aussi à l'équipe. Parfois, on a envie des belles, hein? On retourne les émissions dans tous les sens, mais ça serait impossible sans Anne-Laure Janson à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté et Christiane Campagna. Ici Benoît Racette, on se retrouve la semaine prochaine la semaine prochaine. Ben oui, c'est comme une contraction Canal M, la semaine prochaine, tout va ensemble. Mais c'est très important puisqu'on aura en ouverture Philippe Schnob, président de la STM, et concernant ses 50 ans du métro, mais aussi on essaiera de faire la lumière sur la discrimination qui existe parfois même en humour. Alors suivez-nous, on va finir par faire ensemble un véritable accès libre.